Le moment de conclure, 13 décembre 1977.
Que c'est un tort. Pour ça que j'ai inscrit trou. En principe, c'est un tort à quatre. C'est un tort à quatre tel qu'un quelconque des quatre soit retourné. Je n'ai un peu de moi pour plus. Voilà le tort à quatre dont il s'agit. C'est Souris qui s'est aperçu qu'en retournant un quelconque des quatre, on obtient dans la figure de gauche en retournant un quelconque des quatre, on obtient cette figure qui consiste en un tort à ceci près que à l'intérieur du tort, nous ne faisons que ce qui se présente là au tableau, à savoir des ronds de ficelle. Mais chacun de ce que vous voyez là, chacun de ces ronds de ficelle est lui-même un tort. Et ce rond de ficelle retourné comme tort donne le même résultat. Le même résultat, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tort qui enveloppe tout, chacun des ronds de ficelle qui est pourtant un tort, chacun des ronds de ficelle, donc je vous le répète, qu'il est également un tort, chacun de ces ronds de ficelle fonctionne de la façon que Souris a formulé sous la forme de ce dessin. Ceci implique une dissymétrie. Je veux dire que il a choisi un tort particulier pour en faire le tort tel que je viens de le dessiner. C'est le tort qu'il a retourné. Je vous prie d'y prendre garde, et à ce titre, il lui a donné un privilège sur les autres torts qui qui se trouve ne figurait ici qu'à l'état de ronde ficelle. Pourtant, il est tout à fait patent que le tort qu'il a choisi, et qui pourrait se désigner par un, deux, trois, quatre, en partant de l'arrière vers ce qui est en avant, celui-là qui est en avant, celui-là qui est un peu plus en avant, et celui-là, je parle de celui-là, qui est un peu plus en avant. Tout à fait en même temps, aussi bien comme vous le voyez, pour peu que vous ayez un peu d'imagination, comme vous le voyez, il y en a quatre, et c'est en choisissant un et en le retournant qu'on obtient la figure que vous voyez à gauche, et cette figure est équivalente pour n'importe lequel des ronds. Je veux dire des torts. Néanmoins, j'objecte à souris ceci qui n'est pas moins vrai, c'est à savoir qu'en retournant n'importe lequel de ce qui s'appelle nœud borroméen, on obtient la figure suivante le 2 et 3 étant indifférents. C'est de retourner. Ce que j'ai désigné ici comme un, à savoir un des éléments du nœud borroméen, dont vous savez comment se désigne. Dans la figure qui est à droite, il est tout à fait clair que les rondes ficelles qui sont à l'intérieur du tore, et qui, d'une façon équivalente à ce que j'ai dit tout à l'heure, peuvent être figurés comme tort. Chacun de ces torts retournés enveloppe les deux autres torts. De même que ce qui est désigné en un. Qui a pour propriété d'envelopper les deux autres, à condition qu'ils soient retournés. Ce qui donc est dans la figure de droite devient ce qui est dans la figure de gauche, à condition que chacun de ces temps soit retourné. Il est patent que les deux figures de gauche sont plus complexes que les deux figures de droite. En outre, ce que fait apparaître la troisième qu'une fois retourné, le tore que j'ai désigné par 1 sur la figure en allant de gauche à droite sur la figure troisième, quelque chose me vient à l'esprit à propos de ces torts. Supposez que ce que j'ai appelé privilégier un tort se passe au niveau du tort 2, par exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que le tort 2 devient en le privilégiant par rapport au tore 3, à savoir en le retournant à l'intérieur du tore que j'ai désigné du nom de 1, à savoir en privilégiant le 2 par rapport au tore 3. Dans un cas, le retournement ne changera rien au rapport du tore 2 par rapport au tore 3. Dans l'autre, il équivaudra à une rupture du nœud borroméen. Ceci tient au fait que le nœud borroméen se comporte différemment selon que sur le tore retourné, la rupture se produit d'une façon différente. Je vais vous indiquer sur la figure de gauche ceci qui est patent, c'est que à sectionner le tore retourné de la façon que je viens de faire, le nœud borroméen se défait. Par contre, à le sectionner de cette autre façon, donc il est, je suppose, pour vous tous évident que c'est équivalent à ce que je dis ici, que c'est équivalent, le nœud borroméen ne se dissout pas, alors que dans le cas présent, la coupure que je viens de faire dissout le nœud borroméen. le privilège, donc, dont il s'agit, n'est pas quelque chose qui soit univoque. Le retournement d'un quelconque de ce qui aboutit à la première figure, le retournement ne donne pas le même résultat selon que la coupure se présente sur le tore d'une façon telle que il soit, si je puis dire, concentrique au trou, ou selon qu'il est perpendiculaire au trou. Il est tout à fait clair, ceci se voit sur la première, il est tout à fait clair que c'est la même chose. Je veux dire que à rompre selon un tracé qui est celui le nœud borroméen à trois se dissout. Car il est tout à fait clair que même à l'état du temps, les deux figures, vous voyez là, se dissolvent, je veux dire, se séparent, si retourner et couper dans le sens que j'ai appelé longitudinal, alors que je peux appeler l'autre sens transversal. Le transversal ne libère pas le tore à trois, par contre le longitudinal le libère. Il y a donc le même choix. Le même choix à faire sur le tore retourné, le même choix à faire selon le cas où l'on veut et où l'on ne veut pas dissoudre le nœud borroméen. La figure de droite, celle qui matérialise la façon dont il faut couper le tore environnant. Pour, je pense que vous voyez, pour libérer les trois qui restent, il est bien clair que dessiner des choses comme ça, on voit que ceci que je désigne à l'occasion de deux, que ceci se libère du trois et que secondairement le trois se libère du quatre. Je propose ceci, ceci qui est amorcé par le fait que dans la façon de répartir la figuration du 4, a eu une très dessiné comme cela. C'est également un nœud borromère. Mais je suggère ceci, qu'il y a un nœud borroméen à 6. Qui, si je puis dire, se suivrait à la queue leu-leu. C'est un nœud borroméen plus complexe. Ces deux sont équivalents.
Écoute, j'en veux.
L'un est sur l'autre.
Je vous en fais comme ça, comme l'équilibre.
Dans ce cas, il faut que le nœud borroméen s'inscrive en étant sur
voilà.
Celui qui est sur et sous celui qui est sous. C'est ce que vous voyez là.
De façon très
Voilà.
Là où il y a
De ces deux couples, de ces deux couples, je pose la question. Est-ce que retourner appelé la figure à la queue leu-leu, est-ce que retourner donnera le même résultat que le retournement nous avons déjà une indication de réponse. C'est que le résultat sera différent. Il sera différent parce que la façon de retourner un quelconque de ces six que j'appelle à la queue leu-leu donnera quelque chose d'analogue à ce qui est figuré ici. Par contre, la façon se retourne donnera quelque chose de différent. Je m'excuse d'avoir mis en cause directement souris. Il est certainement tout à fait valable en ayant introduit ce que j'énonce aujourd'hui. Mm. la distinction de ce que j'ai appelé la coupure longitudinale avec la coupure transversale.
Il faudra payer.
Est essentiel. Je pense que j'en avais suffisamment l'intention. La façon dont est faite la coupure est tout à fait décisive. Qu'est-ce qu'il advient du retournement d'un des C'est ce qui est important à savoir, et c'est en le remettant entre vos mains que je désire en avoir un mot. Voilà, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui.